Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une journée particulière, un dimanche particulier, où l'on prie pour les malades. C'est certainement cette approche du 11 février Notre-Dame de Lourdes qui a fait de ce dimanche eh bien, une journée de prière pour les malades. Et c'est assez heureux de voir que, avec la providence de la liturgie, eh bien, il s'agit de faire le bien autour de soi, certainement auprès des malades. Visiter les malades, c'est un signe aussi de la présence du Messie, la guérison des malades, la prière pour les malades, mais aussi de façon générale, tout le bien que l'on peut faire dans un monde qui est bouleversé, qui est malade, apporter de la lumière. Apporter de la lumière, c'est-à-dire apporter un réconfort. Être déjà sensible à voir qu'il y a des personnes qui sont dans le besoin matériel, mais c'est de loin pas le besoin le plus important dans nos sociétés occidentales. C'est souvent un besoin qui vient de la solitude, qui vient d'un certain délaissement, d'une certaine manque de socialisation. Et on voit avec cette perte de la place de la vie chrétienne dans nos sociétés, eh bien, on voit combien cette solitude va augmentant et cette ténèbre qu'est la solitude va gagnant les cœurs. Alors oui, il y a urgence. D'abord, se rendre compte qu'on a en nous une capacité d'éclairer l'autre. D'éclairer l'autre, dit Jésus, par le bien que vous faites. Et vous le savez, et nous l'avons dit au début de cette Eucharistie, quand on demande pardon parce que le bien qu'on n'a pas pu faire, on a péché en parole, par action et par omission. Et vous savez ce que c'est que le péché par omission ? C'est précisément ça. C'est pas juste avoir oublié quelque chose, ça n'a rien à voir. Le péché par omission, c'est de voir le bien que l'on peut faire et de ne pas le faire par égoïsme, parce que ça me fait sortir de ma zone de confort, parce que je suis pressé, que sais-je. J'ai vu le bien, j'ai vu cette dame chargée avec son cabas, etc., qui avait certainement besoin d'aide. Mais bon, vous n'avez qu'à pas prendre autant de courses, et puis moi je continue mon chemin. Ça, c'est le péché par omission. Et s'il vous est donné de voir le bien à faire, déjà c'est une grâce. Mais c'est vrai que c'est une grâce qui engage. Il y a des personnes qui ne voient pas le bien à faire, qui ne se rendent pas compte, qui ont un rapport à la... Non pas qu'ils soient, on les jugerait facilement comme égoïstes ou que sais-je, non. Non pas qu'ils aient un rapport à la réalité ou à l'autre qui soit plus indifférent, non, c'est juste qu'ils ne voient pas. Mais si à vous, il vous est donné de voir le bien qui peut être fait dans telle situation, un soutien, une parole, un appui, une présence, vous vous êtes déjà rendu compte qu'il y avait une souffrance et vous êtes rendu compte qu'il y avait un manque, et vous dites, déjà de se rendre compte de ça, déjà c'est une grâce. Eh bien, posez-vous la question, comment je peux y répondre? Je peux y répondre moi-même en allant à la rencontre de celui qui est, d'une manière ou d'une autre, dans une situation de fragilité. Alors oui, ma lumière se lèvera en plein midi et la ténèbre ne sera plus ténèbre. Cette ténèbre qui habitait le cœur, par le fait de se rapprocher, par la présence, l'amour désintéressé de l'autre, fait que la lumière du Christ rayonne. Et on est rendu capable de ça par le baptême. Vous savez, ce qui a été très fort dans le début du christianisme, c'est précisément ça, c'est de dire comment des gens qui ont tout, parce que souvent c'était des gens de la noblesse romaine, etc., qui avaient une certaine aisance, de l'élite, comment des gens qui ont tout vont aller prendre soin des nécessiteux et des miséreux. Et c'est ça qui a fait que le christianisme s'est répandu. Parce que ça interrogeait. Mais comment est-ce possible? Et n'oublions pas que c'est quelque chose d'assez actuel. Mère Teresa, par exemple, en Inde, a été mal accueillie. Mal accueillie parce que, au fond, ces personnes qui étaient miséreuses, c'était leur destin, leur karma. Ne va pas t'opposer à leur karma. Et elle, elle venait, les prenait, en prenait soin, et faisait qu'ils mouraient dans une entourée d'affection et de tendresse. Mais ça, croyez bien que c'est quelque chose qui n'est pas si fréquent que ça. Et en même temps, il y a un tel besoin aujourd'hui de se rapprocher, on sent un tel isolement, une telle indifférence dans nos sociétés, parce que, entre autres, la vie chrétienne y est beaucoup moins présente. Parce que la lumière de l'Évangile ne brille pas comme elle devrait briller. Alors oui, le Seigneur nous dit, mais attention de ne pas mettre sous le boisseau, sous prétexte de rester dans sa zone de confort, sous prétexte de dire il y a des services sociaux qui s'occupent de ceci, de cela, mais il n'y a rien qui remplace la manière dont vous êtes présent. Chacun de nous a une qualité de présence unique. Unique. Et chacun de nous a une qualité de présence qui lui permet justement de découvrir que le Seigneur peut se rendre présent à ses côtés. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Personne ne peut aimer à la manière dont moi j'ai aimé, avec la même qualité, avec le même regard, avec la même intensité. Et donc, si je ne le fais pas, eh bien, il y aura quelque chose qui manquera sur cette terre. Il y aura quelque chose qui manquera parce que, précisément, il y aura une manière d'exprimer l'amour de Dieu qui ne sera pas au rendez-vous. Alors oui, c'est intéressant de se dire que notre capacité d'aimer, notre attention aux autres, on n'est pas les seuls à faire ça, mais les chrétiens en ressentent la responsabilité. Ils n'ont pas l'exclusivité de l'amour et du soutien, heureusement, mais ils en ressentent la responsabilité. Ils ressentent que cette lumière-là, se donner le goût des choses, le sel, c'est précisément ça, c'est ce qui donne le goût des choses, eh bien, ça c'est de leur responsabilité, parce qu'ils ont découvert que le Seigneur a pris soin d'eux. Et quand on a découvert la présence de Dieu dans sa vie, eh bien, cette présence de Dieu fait que, spontanément, on est poussé vers d'autres, on est poussé à ouvrir le cœur vers autre chose. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur un autre point, sur le fait de dire quelle est la différence entre faire le bien, parce que juste, j'allais dire, c'est humain, de quelqu'un qui tombe dans la rue, etc., bah, tout de suite on se précipite, on veut soutenir, on prévient les secours éventuellement, etc., mais ça a besoin d'être chrétien. Quelle est la différence entre faire le bien au nom de l'Évangile et faire le bien tout court? Quelle est la différence? Parce qu'au fond, donner à manger, soutenir, eh bien, c'est ce que dit la première lecture. Se couvre de vêtements celui qui est nu, accueille chez toi le sans-abri, ne te dérobe pas ton semblable, etc. Des tas de gens le font de par le monde. Et c'est heureux, ce qui fait que le monde est moins dur. Mais comme chrétien, on le fait de façon différente. Même si matériellement, on peut nourrir, on peut soutenir, etc. On prend conscience que les actes que nous posons retentissent dans l'éternité. On prend conscience que ce que nous faisons, d'une certaine manière, a à voir avec la présence de Dieu et avec le royaume de Dieu. Nous le faisons comme les autres, mais pas avec la même perspective que les autres. Et puis, il y a un autre point. Nous prenons conscience que nous sommes signes et non pas solutions. Et ça, c'est capital. Si vous vous lancez dans la proximité des personnes en fragilité, il y a toujours un danger, celui de se prendre pour le sauveur. Je vais éradiquer de la surface de la terre la pauvreté. Je vais éradiquer la maladie, éradiquer l'exclusion, etc., etc. Se prendre pour sauveur. Non, je suis signe. Pas solution. Je suis signe, et c'est intéressant, signe, ça ramène à quoi? Ça ramène à l'Eucharistie. L'Eucharistie, sacrement. Sacrement, ça se dit aussi signe, visible, d'une grâce invisible. J'allais dire, chaque acte d'amour désintéressé, c'est quelque chose qui nous envoie à cette célébration dominicale. Et donc, pour nous, on peut s'approcher, on a vu de par les siècles combien l'Église, par des laïcs, par des consacrés, sont allés aux frontières de l'humain, justement, sont allés là où les ténèbres semblaient les plus épaisses, pour annoncer la lumière du Christ, pour établir un dispensaire, une école, que sais-je, pour que l'humanité puisse grandir, tout en ayant conscience qu'il n'est pas en notre pouvoir d'éliminer la souffrance de ce monde. Il est juste en notre pouvoir de l'alléger. Mais que, en participant de l'Eucharistie, c'est toute cette souffrance que je n'arrive pas à rejoindre, que je n'arrive pas à soulager, que je n'arrive pas même à comprendre, que je dépose sur la patène et que j'offre. Et ça, ça fait qu'on ne perd pas l'espérance. J'ai vu, comme je l'ai dit peut-être à plusieurs reprises, que j'étais aumônier de prison en Amérique latine durant des années, et des personnes se décourageaient. Des laïcs qui commençaient dans la visite des prisonniers, qui commençaient, etc. Puis finalement, il n'y avait pas de conversion. J'ai connu aucune conversion. On ne voyait pas de changement. Ils ne voyaient pas d'amélioration. On pensait qu'on allait les remercier. Parfois, ils étaient insultés. Et ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me dis, lorsqu'on rentre dans cette dimension de soutien aux personnes en fragilité, qui sont dans la ténèbre, quand on va se confronter à la ténèbre de ce monde, avec la lumière du Christ, ayons conscience que cette lumière du Christ que nous portons, elle est claire, mais qu'il n'y a que dans l'au-delà que l'amour va pouvoir inonder notre cœur. Ce n'est pas pour cette terre. Il faut renoncer au paradis terrestre. Et si on n'a pas cette espérance de l'au-delà, que justement mes actes retentissent dans l'éternité, si je n'ai pas conscience de ça, et je me décourage et j'abandonne. Et j'en ai vu un certain nombre parce qu'ils ne voyaient pas de progrès. Ils voyaient que ça ne changeait pas. On ne leur disait pas merci. Ils étaient plutôt dans une quête d'approbation, de paroles valorisantes. Or, on sait bien, quand on est auprès des personnes plus fragiles, surtout désocialisées, surtout marginales, qui parfois sont violentes, qui sont d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas d'abord les paroles valorisantes qui sortent de leur bouche. Ce n'est pas d'abord des merci qui sortent de leur bouche. Et si on est en quête de ça, eh bien on arrête et on laisse tomber. Parce qu'on a perdu de vue l'espérance que, au fond, chaque acte que je pose, ça renvoie à une plénitude qui n'est pas de ce monde, mais qui est annonciatrice. La lumière se lèvera dans les ténèbres. Il y a quelque chose de lumineux dans le fait d'un amour désintéressé. Il y a quelque chose de lumineux. Alors c'est tellement actuel, cette parole de l'Évangile et cette parole d'Isaïe, qui fait disparaître chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, etc. La lumière, ta lumière se lèvera dans les ténèbres. C'est tellement d'urgence à ça. Il y a tellement d'urgence à ça dans notre monde où on sent bien qu'on a de la difficulté à rentrer en contact les uns avec les autres. On sent bien qu'il y a des fractures comme ça, il y a des raidissements, il y a des effets de communautarisation, des effets de fermeture à l'autre. Eh bien, nous nous allons au-devant de celui qui est fermé ou de ses fermetures, et nous voulons simplement, par notre présence, annoncer une lumière, une espérance. Parce que la présence, c'est précisément ce qui manque le plus quand on est dans les ténèbres. Et quelle est la présence à laquelle on va pouvoir se ressourcer, si ce n'est l'Eucharistie, la présence réelle. C'est pour ça que tous les saints, les grands saints de la charité, hein, on pense à Saint Vincent de Paul qui disait « On quitte Dieu pour Dieu ». Il disait ça à une de ses religieuses qui disait « Mais mon père, si un pauvre sonne à la porte et je suis à la messe, qu'est-ce que je fais ?» Tu quittes Dieu pour Dieu. Et ce lien entre le contact avec la personne en fragilité et l'Eucharistie qui est le signe de la fragilité, qu'est-ce qu'un peu de pain et un peu de vin face à tant de souffrances? Rien. Eh bien, ces deux choses unies sont lumineuses et s'interpellent et dialoguent. Vous voyez, il y a une vraie... D'où l'importance d'une vie de prière. C'est pour ça que parfois je regrette que dans les œuvres de charité de l'Église, hein, des œuvres vraiment de bienfaisance, etc., il n'y ait pas assez la dimension spirituelle. Je ne suis pas sûr que, par exemple, lorsqu'on organise une soupe populaire ou quoi qu'est-ce, on commence par un bénédicité. J'en suis pas sûr. Et c'est dommage. Parce que la grande pauvreté, elle est d'abord intérieure. Elle n'est pas dans nos sociétés occidentales. Oui, il y a certainement de la misère, etc., matérielle, mais on sent que c'est d'abord cette solitude et que la grande richesse, c'est la découverte d'une présence qui nous habite. Le croyant n'est jamais seul. Alors oui, on va demander au Seigneur de nous aider à vivre les choses dans une unité, parce qu'il peut très bien y avoir beaucoup de dévotion, mais sans attention à celui qui a besoin, comme il peut y avoir aussi un soutien à celui qui a besoin sans un contact avec le sacré. Alors on va demander d'unifier les deux, qui sont au fond les deux montants de la croix, verticale et horizontale. Le vertical, c'est la sacralité, la transcendance. L'horizontal, c'est notre commune humanité. On va demander au Seigneur cette grâce-là parce que ce n'est pas si simple. Parce que c'est forcément faire qu'on rentre en tension le fait d'unir et la transcendance et la proximité. C'est cette grâce qu'on demande au Seigneur par la prière de la Vierge Marie qui a su être présente au pied de la croix. Toute l'humanité est soit sur la croix, soit au pied de la croix. D'une manière ou d'une autre, l'humanité est sur la croix ou au pied de la croix. Eh bien, puissions-nous demander à la Vierge Marie qu'elle nous aide à découvrir la présence d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.